Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le fardeau des maladies cardiovasculaires est à la hauteur de la mortalité associée à ces pathologies nombreuses. Infarctus, AVC, hypertension, diverses cardiopathies avec, en fonction des habitudes de vie, des antécédents familiaux et de l'âge, des facteurs de risque qui varient avec également en fonction du niveau d'éducation et nous le verrons du niveau de vie, du système de santé des patients. Une très forte inégalité face à ces pathologies, responsable de près de 3 décès sur 10 sur la planète. Inégalité criante lorsque l'on sait aussi que près de 80% des décès dus aux maladies cardiovasculaires concernent, d'après l'Organisation mondiale de la santé, les habitants des pays les plus pauvres. D'où l'importance de la prévention lorsque les infrastructures médicales et les spécialistes manquent. Pour agir en amont, insister sur cette prévention, le repérage des premiers symptômes avant d'en arriver à des situations critiques. Au cours de cette émission, nous allons donc parler des différentes maladies, des conseils en matière d'hygiène de vie, du dépistage, de la prise en charge des traitements disponibles et nous allons surtout répondre à vos questions posées au 33 84 22 75 75. Semaine du cœur, dimanche 29 septembre, journée mondiale du cœur. Après, au début du mois, le congrès de la Société européenne de cardiologie, actualité chargée donc. Et pour répondre à toutes vos questions sur la santé du cœur, nous avons le plaisir de recevoir en studio non pas un, mais deux cardiologues. Professeur Aimé Bonny, bonjour professeur.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes cardiologue praticien à l'hôpital de district de Bonassama à Douala au Cameroun, médecin des hôpitaux en France, enseignant à l'université de Douala et également avec nous, docteur Jean-Jacques Monsuez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de cardiologie à l'hôpital René Muret de Sevran, Seine-Saint-Denis, et membre du conseil d'administration de la Société française de cardiologie. Et en fin d'émission, nous donnerons la parole au docteur Catherine Solano, sexologue. Elle va répondre aux questions d'un auditeur. Question posée, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors on va bien sûr essayer de répondre à un maximum de questions d'auditeurs aujourd'hui, mais pour commencer, professeur Aimé Bonny, on va évoquer les résultats de cet important rendez-vous qui s'est tenu au tout début du mois en France, le plus important congrès mondial consacré à votre spécialité commune. On y a bien sûr parlé épidémiologie, traitement. De votre côté, professeur Bonny, vos travaux ont porté, si je ne me trompe pas, je vais essayer de résumer, c'est pas forcément simple, sur l'accès à la prise en charge, donc en pointant justement ces manques en Afrique en termes d'offres de soins. Vous pointez les manques, mais vous tenez aussi à mettre en avant ce qui marche, les deux.
Oui, effectivement, Madame Paré, il faut savoir qu'en Afrique aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de gouvernance, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui se passent assez bien dans certains pays. On a une cartographie de l'Afrique, de savoir à peu près où est-ce que les choses se passent plutôt mieux, et là où il y a des problèmes, et de manière globale, on sait que les pays de l'Afrique subsaharienne seront un peu en retard par rapport au nord de l'Afrique. Le nord de l'Afrique et l'Afrique du Sud qui sont en pole position en termes d'offre de soins. Mais il y a des petits pays tels que l'île Maurice qui sont plutôt pas mal, mais aussi d'autres pays très peu connus en Afrique francophone. Ce sont les pays tels que le Botswana, le Malawi, la Zambie, la Namibie, où on a aujourd'hui des centres de cardiologie modernes avec la chirurgie cardiaque. En sachant qu'en Afrique centrale, par exemple, il n'y a pas de centre de chirurgie cardiaque. En Afrique de l'Ouest, il y en avait 5 en 2012. Je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de nouveaux centres dans ce coin. Donc, il y a un véritable retard de l'Afrique francophone, mais des choses avancent et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont certainement en pole position pour essayer de rattraper ce retard-là. Alors, au Congrès mondial de cardiologie, On a vu, on a noté un certain dynamisme de l'Afrique en termes de recherche, en termes de communication. Et notre travail a essentiellement listé l'état des lieux de la prise en charge des maladies qu'on appelle la maladie du rythme cardiaque, les troubles du rythme cardiaque. Quand on a les palpitations, on a les syncopes, donc c'est les pertes de connaissance brèves, on fait la mort subite cardiaque, on se rend compte qu'on peut être atteint d'une maladie telle que la fibrillation auriculaire, c'est le cœur qui s'emballe, les contractions ne sont pas régulières, on peut être atteint d'un gros cœur, d'une cardiomyopathie dilatée, qui va elle-même être à l'origine donc des arythmies et des arrêts cardiaques, des morts subites. On peut avoir le cœur qui est très lent, et on a besoin d'un pacemaker. Et nous avons donc essayé de voir ce qui se fait en Afrique en termes de médicaments qui fluidifient le sang pour éviter des AVC, des anticoagulants. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique en termes de pose de pacemaker pour éviter que le cœur s'arrête, de défibrillateur pour éviter la mort subite cardiaque. En termes d'ablation, c'est-à-dire un traitement radical des arythmies, on va dans le cœur et puis on repère les foyers de la mauvaise excitation du cœur et on va brûler ces foyers-là pour restaurer le rythme normal. Donc ça, c'est quand même de la cardiologie assez poussée, avant-gardiste, qui ne se fait pas dans tous les centres, même en Europe. Mais on voulait donc savoir, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? Et on se rend compte que il y a quand même à peu près 20% des pays en Afrique qui n'ont pas la capacité de soigner des malades qui font des pauses cardiaques, donc qui ont besoin d'un pacemaker. C'est quand même assez préoccupant parce que la pose d'un pacemaker traite de manière radicale définitive cette complication qui est mortelle si on ne fait rien. C'est quand même...
Il n'y a pas ce recours justement parce qu'il y a quoi ? Il manque les plateaux de chirurgie ou il manque les spécialistes ou les deux ?
Non, ce n'est même pas de la chirurgie. C'est encore pour dire qu'effectivement, c'est un drame qu'il n'y ait pas ce genre d'offre de soins dans 20% des pays africains. Et même dans les pays où il y a cette offre de soins, le coût de cette prise en charge est suffisamment élevé pour limiter l'accès à cette prise en charge. Donc c'est encore préoccupant. Il faut que les gouvernements mettent des moyens pour effectivement réduire le coût. Il faut que les fabricants de ce matériel puissent effectivement proposer des coûts
inférieurs pour
ces régions, parce que ça c'est un problème. Alors donc on s'est donc rendu compte que il y a cette difficulté là. Il y a la difficulté dans les diagnostics. Donc, c'est-à-dire que les moyens diagnostiques, les scanners IRM, les Holter ECG, donc ça, c'est des outils diagnostiques qui manquent. Et à cause de ça, effectivement, on a un taux de diagnostic des maladies qui est inférieur à ce qu'on sait. Donc, quand on va colliger tous ces facteurs-là limitants, on se rend compte que la prévalence, donc c'est que le nombre de cas dans une population et l'incidence, le nombre de nouveaux cas par an des maladies cardiovasculaires en Afrique est certainement sous-estimé.
Sous-estimé. Et deuxième problème directement lié à ce que vous venez de dire, professeur Mebony, je me tourne vers vous, docteur Jean-Jacques Monsuez, c'est toute la problématique de la prise en charge précoce, du dépistage, encore de la prévention, ça on va en reparler largement, c'est essentiel, mais c'est important aussi de pouvoir comprendre qu'il y a un problème tôt pour en fait peut-être avoir un protocole de soins moins lourd.
Oui, comme l'a dit Aimé, là, ces enquêtes qui sont faites sont extrêmement informatives. C'est-à-dire qu'en sachant ce qui ne va pas, eh ben, on peut voir ce qu'on peut améliorer. Et en fait, j'ai le privilège un peu de l'âge, et ce que je peux dire, c'est que mes amis africains, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, ont fait d'énormes progrès. Un, en matière d'épidémiologie, ils savent ce qui se passe chez eux. Deux, ils ont fait des progrès en cardiologie diagnostique, comme tu l'as dit. Ils ont fait des progrès en cardiologie thérapeutique et interventionnelle. Il y a maintenant des plateaux techniques qui se mettent en place avec beaucoup de retard par rapport à chez nous, et ça ne peut pas être aussi bien que chez nous. Mais en tout cas, ça a considérablement avancé, et on ne peut, enfin, au sein de notre groupe de travail de cardiologie tropicale, qui est un groupe qui devient maintenant africain, Afrique du Nord et puis Afrique subsaharienne, on ne peut que le constater. Le point très important aussi, c'est la jeunesse des cardiologues et leur motivation. Ils sont formés localement, à Abidjan, à Dakar, des écoles de cardiologie qui sont extrêmement sérieuses. Et
une nouvelle génération.
Ah, cette nouvelle génération, moi je les vois travailler en Afrique du Nord aussi, à Alger. Ils sont très motivés. Et parfois, on envie un peu leurs jeunes. Donc je serais assez optimiste, ce que tu as dit. Pour l'instant, on n'y est pas totalement, mais je pense que ça avance considérablement.
Mais il faut les garder au pays, en tout cas, éviter cette fuite des cerveaux. Justement, sur le risque cardiovasculaire, on va beaucoup parler justement parce que cet accès aux soins, encore plus à la chirurgie, ce n'est pas ouvert à tout le monde. La prévention, c'est essentiel, indispensable message quand on parle de cette santé du cœur. Est-ce que pour vous, il y a un risque, professeur Aimé Bonny, plus que les autres? Est-ce que pour vous, c'est d'abord, numéro un, la sédentarité?
Alors, je vais vous renvoyer vers une très belle, importante étude présentée justement à Paris lors du Congrès mondial de cardiologie. L'acronyme, c'est PURE. Une étude présentée par le professeur Salim Youssouf de Hamilton au Canada, qui est l'un des papes de l'épidémiologie cardiovasculaire mondiale. Une étude qui a regroupé 27 pays, mais en fait, là, il a présenté les données de 21 pays, et parmi lesquels quelques pays développés et des pays à revenus intermédiaires et des pays à revenus très faibles. Parmi lesquels trois pays africains, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Alors, il a été clairement démontré dans cette étude qui est récente, c'est la plus importante et récente, il a été démontré que les facteurs de risque de développer une maladie cardiovasculaire et de mourir de maladie cardiovasculaire, les facteurs les plus importants aujourd'hui sont, par ordre décroissant, le faible niveau d'éducation, le tabac, la mauvaise alimentation en quatrième position, l'hypertension en cinquième position, parce qu'on a toujours considéré l'hypertension comme le premier facteur. Donc, ce qui veut dire que la pauvreté, une fois de plus, est vraiment le principal facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Plus on est pauvre, plus on est à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire et de mourir précocement de cette maladie-là. Donc il est important de pouvoir mettre un accent sur le bien-être, sur la gouvernance, sur tout ce qu'on veut. Il est important de mettre un accent sur l'hygiène de vie, mettre un accent sur les aliments qui sont plutôt propres, bio, et ça éviterait d'aller vers les traitements qui sont quand même très lourds. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir prévenir par cette modification de notre style de vie.
Quand on dit prévenir, ça veut dire qu'il y a des maladies évitables, y compris de graves maladies, des accidents cardiaques. On peut éviter ces facteurs, docteur Jean-Jacques Monsuez. On comprend, il y en a, c'est comme ça, l'âge, l'hérédité. Si on a eu des cardiaques dans la famille, ça peut exister. Mais par contre, importance essentielle d'informer sur les leviers que chacun, chacune peut utiliser pour se protéger.
Oui, c'est ce que font toutes les mesures de la politique gouvernementale en France. Quand tout le monde rit en disant mangez pas trop et bougez plus, c'est la réalité. Et ces campagnes de prévention, elles sont maintenant, elles sont diffusées en Afrique. La Tunisie a fait un truc extraordinaire, le pain sans sel. Au Sénégal, on voit des campagnes de prévention, en Côte d'Ivoire aussi, au Cameroun, où on a fait un dépistage massif de l'hypertension artérielle autour de la Société camerounaise de cardiologie du professeur Kingé. Donc, tous ces pays ont compris partout qu'il fallait limiter le poids, bien prévenir la population de la diététique à avoir, et pas avec des choses compliquées. C'est-à-dire que de temps en temps, vous demandez combien de grammes de lipides? Non. Pas acheter des bidons de 5 litres à Carrefour. Et ce qui est vrai, d'ailleurs je le dis souvent, ici je l'ai dit déjà à Claire Hédon, ce qui est vrai en Afrique est vrai dans nos banlieues. Quand vous allez à Carrefour, à côté de mon hôpital, les bidons de 5 litres d'huile dans les caddies, on les voit. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Du bon sens sur la diététique.
Et les aliments ultra transformés.
Les aliments ultra transformés, le tabac et l'exercice physique. Et puis plus vous prenez du poids, moins l'exercice physique est facile.
Donc on multiplie les facteurs de risque.
Et ensuite vous avez le diabète. Et là, le diabète, ça multiplie tous ces risques-là.
Alors, on va tout de suite donner la parole à nos auditeurs. Toutes les questions sur la santé, les troubles cardiovasculaires.
Priorité santé sur RFI.
Le premier de ces auditeurs, c'est Paul, qui est en ligne du Gabon, de Libreville précisément. Bonjour Paul.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Bonjour docteur.
Les médecins avec moi vous écoutent, sont à votre écoute et vont répondre à vos questions. Allez-y.
D'accord. Il y a à peu près un an, je suis allé voir un médecin parce que j'ai de la sinusite. Et lorsqu'il m'a ausculté, il s'est rendu compte que j'avais une arythmie cardiaque. Et je dois dire que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, que j'avais une élévation de tension qui était passée à 15, alors que d'habitude, je suis autour de 12,7, 12,8. Mm-hmm. Et je ne me suis pas rendu compte aussi que j'avais des problèmes d'essoufflement. Donc ce médecin m'a envoyé voir le cardiologue pour faire l'ECG, électrocardiogramme, qui a confirmé donc l'arythmie cardiaque. De là, il m'a fait faire l'Holter, ECG, avec un enregistrement de 17 heures, et l'échographie cardiaque. La conclusion, c'est que je souffrais de cardiomyopathie dilatée, avec dysfonction systolique du ventricule gauche. Bon, ce mot savant ne me disait absolument rien, mais en tout cas, il a essayé de m'expliquer en français facile qu'une partie de mon cœur avait pris du volume et que la quantité de sang qui était dans le corps, que le cœur gérait, était supérieure à la normale. Donc, c'est ce qui était la cause donc de l'arythmie cardiaque. Mais je dois dire qu'avant, je n'ai jamais eu de problème d'hypertension, mais j'avais toujours des problèmes d'hypotension. J'avais vu des médecins qui ne m'ont jamais donné réellement un traitement pour ça. Donc le premier médecin, il essaie de comprendre les causes de cette cardiomyopathie. Il me demande si je prends de l'alcool. Je lui dis non, je ne fume pas, je ne prends pas de l'alcool. Mais il n'était pas convaincu. Parce que j'imagine que en fac de médecine, on lui a appris que la cardiomyopathie dilatée, il faut être un ivrogne. En tout cas, toujours est-il que j'avais une tête de menteur, et quand je suis sorti de là, j'étais vraiment fâché. Mm-hmm. Le cardiologue m'a donné un traitement assez lourd. Je ne devais pas manger le sel, je ne devais pas manger ceci, Et comme j'étais mécontent quand je suis sorti de son cabinet, je suis allé voir un autre. J'ai commencé le traitement et je suis allé voir un autre cardiologue qui a compris que ce traitement était peut-être un peu trop lourd pour quelqu'un comme moi. Et on a essayé de discuter un peu de la cause de ce problème. Mm-hmm. Il m'a demandé aussi si je prenais de l'alcool. Je lui ai dit non, je fume pas et je prends pas d'alcool. Il m'a dit, vous n'avez pas eu un problème de santé avant? Je dis si. Je dois dire d'abord que j'ai 67 ans.
Oui, le facteur de l'âge peut compter aussi, oui.
J'ai eu un problème de grippe. J'ai eu la grippe et pour la première fois, je suis resté 3 semaines cloué au lit. Il me dit, c'est possible que ce soit ça, l'origine ou la cause du problème que vous avez. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que il n'y a pas eu de conclusion en tant que telle.
Et maintenant, vous prenez. Excusez-moi, Paul, parce qu'on aura d'autres auditeurs après vous en ligne. On ne peut pas rester trop longtemps. Juste une question. Vous prenez maintenant un traitement? Vous suivez un régime sans sel? Qu'est-ce que vous faites?
Non. Je n'ai pas de régime spécial. Je prends un traitement, le Cordavone 200, le Cliatec 1,25 et le Cardégique 75. Donc, je prends ça depuis un an. Dans quelques jours, en fait, la semaine prochaine, je vais aller revoir le cardiologue pour qu'on essaie de refaire les examens, notamment l'échographie, pour voir s'il y a une évolution.
Alors, vous nous avez exposé longuement votre problème. Est-ce que vous pouvez simplement maintenant nous poser votre question?
Ah oui, il y a deux questions.
La cause, oui.
Et si ce problème est un problème à vie, C'est-à-dire que jusqu'à ma mort, je vais toujours...
Est-ce que vous pourrez vous en débarrasser ? Je me tourne vers les spécialistes. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Professeur Bonny, sur les causes. Donc, on a bien compris, hein, Paul était très vexé d'avoir été mis en cause sur sa consommation d'alcool puisqu'il ne boit pas. Il a parlé de cette grippe tenace qu'il a donc bloqué au lit pendant 3 semaines. Là, le deuxième spécialiste lui a dit que c'était peut-être cela. Et vraiment, Paul est en quête d'une explication. Et il a besoin, on a l'impression, vraiment, il a besoin de cette explication pour se soigner et pour accepter le traitement.
Alors, madame, pareil, je comprends très bien le patient Paul. Et je comprends aussi mon collègue cardiologue à...
C'est exactement ce que j'aurais dit.
Voilà, à Libreville. Parce qu'on est dans un dilemme que moi, je vis au quotidien. Et je peux vous assurer que j'ai le malheur, mais peut-être aussi la chance, justement d'exercer dans deux pays. Dans un pays pauvre et dans un pays riche. Et ça, c'est le problème des pays où l'offre de soins est effectivement très limitée. En fait, puisque le cardiologue a fait ce qu'il peut faire, c'est-à-dire il a un échographe, il peut faire une échographie cardiaque et il pose le diagnostic de cardiomyopathie dilatée, ce qu'il a fait, avec donc une force musculaire du cœur qui est effondrée, c'est ce qu'on appelle nous la fraction d'éjection, c'est tellement très basse, et il a mis en évidence une arythmie cardiaque. Bon, le patient ne nous dit pas quelle arythmie, parce qu'il y a plusieurs types d'arythmie. Est-ce que c'est de la fibrillation auriculaire ? Peut-être. Auquel cas, il y a une prise en charge adaptée à cette fibrillation auriculaire. C'est-à-dire donner aussi, entre autres, des anticoagulants pour fluidifier le sang. C'est surtout pas le cardiogique, mais c'est plutôt un autre type d'anticoagulant. Alors, mais... Une fois que le cardiologue a fait ce diagnostic, peut-être de fibrillation auriculaire et de cardiomyopathie dilatée, il n'a pas encore la cause. Il n'a pas encore la cause parce que c'est pas sûr que c'est la fibrillation qui a entraîné la dilatation du cœur. C'est peut-être la conséquence. C'est possible. Mais avant de le dire, pour savoir si c'est la cause ou la conséquence, il y a d'autres examens qu'il faut faire. Et le patient serait en France, qu'il aurait eu très vraisemblablement, certainement, je pense que mon ami Dr Manchès le confirmera, il aurait eu un examen qui permettrait de savoir si ses artères du cœur ne sont pas rétrécies ou bouchées, ce qu'on appelle la cardiopathie ischémique. Et donc, il aurait eu une coronarographie. La coronarographie est donc l'examen qui permet d'éliminer la cause la plus fréquente en Occident, mais dont l'incidence en Afrique devient prépondérante, la cardiopathie ischémique dans les pays en fait en voie de développement. Alors, et donc ça ferait que le cardiologue saurait si c'est une cardiomyopathie ischémique ou alors une cardiomyopathie non ischémique.
Mais là, bon, on comprend bien les différences, on comprend bien une forme d'errance, de difficulté à donner une réponse. Et ça veut dire que là, au moment où on parle à Paul, on ne peut pas lui donner une réponse catégorique. Parce qu'il n'a pas eu accès à cet examen en particulier, c'est ça ?
De la cause de cette cardiomyopathie, le praticien, il ne peut pas dire. Il peut avoir des suppositions, mais il ne peut pas dire, en sachant que le traitement doit être étiologique. On doit cibler exactement la cause pour traiter la cause. Et tant qu'on n'a pas la cause et qu'on n'a pas traité la cause, malheureusement,
on peut avoir un traitement inadapté
et on va toujours regarder certains symptômes liés en fait à cette maladie et donc ça pose un problème. Donc c'est pas forcément le fait de l'incompétence du médecin, mais c'est aussi un problème de moyens disponibles pour pouvoir prendre en charge correctement ce patient.
Voilà cette réponse, Paul. On vous souhaite une très bonne journée à Libreville. Vous vouliez ajouter quelque chose, docteur Monsuez?
Ce cas-là, ce que vous nous présentez, monsieur, ça peut se voir à Paris. C'est-à-dire que c'est une maladie qui n'a pas des symptômes. Parfois, c'est l'atteinte cardiaque, c'est une chimiothérapie, c'est l'alcool. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est une myocardite, la grippe, par exemple, qui peut donner des myocardites. Parfois, on ne sait pas. Parfois, il y a des maladies génétiques. Et souvent, nous, on est... Et puis, la maladie coronaire, bien sûr, comme l'a dit Aimé. Mais souvent, on ne sait pas. C'est pas facile. Mais ce qu'on lit dans votre compte-rendu, c'est que les choses ont été pas mal faites. Hein. S'il y a de la cordarone, vous êtes revenu régulier, je pense. Et en fait, il y a un problème de communication aussi. Vous avez eu une inquiétude. Et ça, nous, on l'a souvent ici. Hein. Il y a une inquiétude auquel nous ne répondons pas. nous, médecins, nous ne répondons pas assez bien. Et je pense que ça, il faut que ça se généralise maintenant, ce souhait des patients d'être bien informés, d'être bien éduqués. Et je crois qu'il faut le dire, un malade, il a le droit de savoir ce qu'il a.
Et Paul nous, y a bien répondu lui-même, puisqu'il est allé voir un deuxième médecin. On n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais en tout cas, Paul l'a fait. On va partir pour le Cameroun, où l'on retrouve Armand, qui est à Njombé. Bonjour Armand.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur. Ma question est de savoir, pour une patiente qui vient d'accoucher en postpartum de 2 semaines, quelle peut être la cause d'un AVC?
Alors Armand, si vous posez cette question, c'est parce que vous êtes vous-même un professionnel de santé, c'est bien cela, et vous n'avez pas eu d'explication après un accident dramatique comme celui-là, une jeune maman qui est décédée 2 semaines après avoir accouché, c'est bien cela?
Et elle a fait un accident vasculaire cérébral 2 semaines après avoir accouché.
Et vous n'avez pas eu d'explication? Est-ce que, excusez-moi de cette question, mais Armand, est-ce que vous avez demandé à l'équipe justement qui l'avait prise en charge, est-ce que vous êtes allé demander par exemple une explication au médecin qui était présent?
Oui, je lui ai demandé, et bon, selon les explications, j'étais vraiment pas très convaincu de son explication. Vous comprenez un peu, parce qu'on lui a fait un scanner qui nous a vraiment convaincu, c'était un accident vasculaire cérébral. Mais toute jeune à 35 ans, sans antécédent d'hypertension artérielle. Donc, c'était un peu ça qui me faisait toujours réfléchir et chercher à savoir pourquoi est-ce qu'elle peut avoir cela.
Une question difficile, à laquelle il est difficile de répondre, effectivement, puisque on n'a pas énormément d'éléments sur le parcours de cette patiente. Docteur Monsuez, vous pouvez répondre quand même quelque chose à Armand, parce que en même temps, un professionnel de santé qui s'interroge, oui, il a besoin de réponses.
Alors, on a eu une conversation sur les complications cardiovasculaires de la grossesse avec le chef de service de la maternité de Jean Verdier, juste hier. Et les complications cardiovasculaires de la grossesse sont passées au premier plan. C'est-à-dire que le reste, les autres maladies infectieuses, métaboliques, etc., tout ça, ça se prend en charge. En cardiovasculaire, on a de temps en temps des revers importants. Alors le diagnostic, là, moi, j'ai pas d'idée bien précise. On en a parlé ensemble avec le professeur Bonny. Les artères pendant la grossesse sont souvent un peu fragilisées. Et donc elles peuvent se fissurer, il peut y avoir des dissections comme on dit nous, c'est-à-dire un peu de sang qui se met au sein, dans la paroi de l'artère. Et ce sang qui s'y met peut rétrécir l'artère et peut créer, si c'est une artère cervicale, du cou, un accident vasculaire. Il est possible qu'il y ait eu de l'hypertension, il est possible qu'il y ait eu un trouble du rythme comme tout à l'heure on a entendu parler. Il est possible aussi qu'il y ait eu... un problème d'embolie pulmonaire compliqué, que ça se voit beaucoup au cours de la grossesse, compliqué secondairement d'un accident neurologique. C'est pas simple à reconstituer et il est pas étonnant que l'équipe ait eu des difficultés là à donner un diagnostic précis.
À l'expliquer après. Ben voilà, Armand, professeur Bonny, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, c'est vrai, comme l'a dit le docteur Monsuez, on est en face d'un cas qui est assez difficile à expliquer, parce que l'AVC à 35 ans et moins, c'est quand même extrêmement rare. Mais l'une des causes des AVC des sujets jeunes en Afrique, il faut pas oublier le VIH. C'est quelque chose d'assez régulier. Bon, mais j'imagine que cette patiente qui a quand même eu un suivi gynécologique prénatal correct, je suppose que on lui a éliminé cette cause-là. Mais il faut avoir simplement, au-delà de ce cas précis, AVC chez le sujet jeune en Afrique. Enfin, partout d'ailleurs, mais vu la prévalence du VIH en Afrique,
c'est
une possibilité.
C'est systématique au Cameroun, hein, le dépistage de la grossesse.
Tout à fait, c'est pour ça que j'ai...
Donc, il devait être au courant de son statut sérologique. Merci beaucoup, Armand. On vous souhaite une bonne journée au Cameroun. On va partir pour le Tchad, Moundou, où l'on retrouve Maurice. Bonjour, Maurice.
Bonjour, Claire.
C'est Caroline, mais c'est pas grave. Maurice, oui, depuis 2 ans déjà, depuis 2 ans. On écoute votre question, allez-y.
Ok, il y a de cela déjà 4 ans,
oui.
En 2015, que j'avais eu un problème d'hypertension.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, j'essayais de monter un escalier, j'ai eu un problème de respiration, soudain, je suis tombé, les collègues m'ont pris pour m'amener dans une clinique.
Mm-hmm.
Après consultation, ils ont pris les paramètres, la tension était montée à 14. Aussitôt, ils m'ont envoyé voir le cardiologue qui m'a fait deux analyses ECG et écho-cœur et m'a fait comprendre que non, le cœur fonctionnait normalement, mais c'était l'hypertension qui était montée. Alors, il m'a demandé d'arrêter de manger du sel pendant 6 jours et de prendre Ezidrex accompagné de l'aspégique 100 mg. Chose faite, une semaine plus tard, la tension est rabaissée jusqu'à 10. Je me sentais parfaitement normalement et le cœur même fonctionnait 5 sur 5. 6 mois plus tard, le même problème s'est répété. J'ai appliqué les mêmes formules, j'ai arrêté de manger du sel pendant une semaine. Je continue à prendre Ezidrex. 2 semaines plus tard, la tension était rabaissée à 12. 1 an plus tard, j'ai encore eu le même problème. La tension était montée cette fois-ci à 14 en temps j'ai effectué un voyage sur Douala. Je me suis présenté dans un centre de santé à Douala. Je me suis fait consulter par un médecin généraliste qui a découvert que oui, c'est l'hypertension qui était montée à 14. Il m'a mis sous l'oxène. J'ai pris l'oxène, je crois, pendant au moins 10 jours. Il n'y a pas eu un changement. L'hypertension ne faisait que monter jusqu'à 18. Il m'a changé encore avec AMEP. J'ai pris AMEP. J'ai fini une boîte de AMEP. L'hypertension était revenue jusqu'à 15.
Maurice, je vous interromps parce que là, on a bien compris qu'à chaque fois que vous prenez un traitement, à chaque fois que vous arrêtez, ça revient. J'ai une question à vous poser qui est très simple. En préparant l'émission, vous nous aviez dit que vous avez 40 ans. Vous faites quel poids, Maurice?
Je fais 84.
Pour quelle taille?
Je suis à 1m66.
1m66. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'un surpoids? 84 kilos pour 1m66, oui, il y a un surpoids. Les médecins vous en parlent quand vous consultez de ce petit embonpoint?
Oui. Ils m'ont dit de pratiquer beaucoup du sport et d'arrêter de manger des aliments gras pour pouvoir perdre un peu du poids.
Docteur Jean-Jacques Monsuez, moi j'ai une question à vous poser. On a fait plusieurs émissions de Priorité Santé. J'apprends beaucoup en préparant cette émission. L'hypertension, c'est une maladie chronique dans la plupart, voire l'essentiel des cas. Comment expliquer que Maurice ait des traitements par à-coups comme cela?
Alors c'est une maladie chronique si elle n'est pas contrôlée et si elle n'est pas prévenue. Le fait qu'il y ait eu un traitement diurétique qui a marché avec un régime sans sel, il ne faut pas faire un régime sans sel strict, il faut diminuer le sel, prouve vraiment clairement que plus vous mangez de sel, plus vous aurez d'hypertension. Ça c'est sur toutes les réclames de tous nos cinémas et c'est surtout les réclames des cinémas en Afrique. Si vous prenez du poids, eh ben vous aurez plus de tension aussi. Et si vous perdez, par exemple, je crois, Maurice, hein, si vous perdez 5 à 7 kilos, la tension, elle va baisser. Et je dirais même à 40 ans, c'est encore possible ça, parce que les artères ne sont pas devenues rigides. Si vous avez une bonne hygiène de vie, prévention du surpoids, exercice physique, pas trop manger, pas trop de sel, etc., et avec un peut-être un tout petit médicament comme les Ezidrex, qui n'est vraiment ni cher, ni un médicament à beaucoup d'effets secondaires, eh ben, vous pourrez peut-être avoir une tension normale définitivement. Et si le poids reste bien contrôlé, peut-être qu'il n'y aura plus besoin de traitement. C'est pour ça qu'on insiste vraiment, et j'insiste lourdement deux fois au point de radoter, les règles hygiéno-diététiques, si vous perdez du poids, si vous mangez pas trop de sel, vous aurez probablement bien avancé dans votre problème. Et ça, c'est vrai pour les 100 millions d'Africains qui écoutent.
Et on espère qu'ils sont aussi nombreux. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, Maurice, c'est prenez soin de votre corps. Est-ce que vous avez la motivation pour perdre du poids? Et d'où cette question. Je vais vous embêter, Maurice, mais j'y vais. Est-ce que vous faites un petit peu d'activité sportive ou d'activité physique?
Oui, je fais d'activité sportive. Je suis tout le temps au terrain.
Terrain de foot?
Je fais probablement 40 minutes, une heure du temps de course.
Ah. Par jour?
En plus de ça, je pratique aussi le gymnastique.
Donc c'est plutôt bien ça. Et est-ce que vous vous sentez motivé pour perdre du poids ou pas trop? Ou c'est quelque chose de vraiment difficile parce que vous avez un bon coup de fourchette?
Oui, bon, vraiment, c'est un peu difficile pour moi parce que j'essaye de perdre ce poids, mais le poids ne fait qu'augmenter.
Mais vous n'avez pas pointé des aliments, par contre, qui vous permettraient de particulièrement perdre du poids, des aliments qui ne sont pas indispensables, certains sodas, un petit peu trop d'huile dans les sauces ou des choses comme ça?
Oui, ouais, c'est ce qui m'a poussé. Et maintenant, j'ai arrêté de manger même la viande il y a de cela un mois déjà.
Mm-hmm.
Et j'ai diminué la consommation de soda, la consommation de jus et autres.
Oui, mais Maurice, il faut que vous preniez des mesures, que vous réussissez à tenir sur la longueur. Vous n'allez pas arrêter de manger, si vous aimez la viande, toute votre vie de la viande. Donc, c'est peut-être changer certaines choses différemment.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm. Et en parler autour de vous aussi pour que, je ne sais pas si c'est vous qui préparez la cuisine, mais que aussi dans la famille, il y ait un élan d'ensemble pour que tout le monde mange mieux, pour que éviter que toute la famille aussi ait ce genre de problème par la suite.
Bon, c'est pas moi qui prépare, mais parfois je mange dans les restaurants. Il y a des moments où c'est moi aussi qui prépare mon repas, mais c'est pas tous les jours.
Donc c'est en parler aussi en famille pour que les choses changent et que tout le monde se mette à mieux manger pour mieux se sentir dans sa peau tout simplement. On vous souhaite une excellente journée au Tchad, Maurice. On prend un dernier auditeur, on reste au Tchad, c'est Djamena et on retrouve Innocent en ligne avec nous. Innocent, nous sommes à votre écoute, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vous demander d'être assez succinct parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, allez-y.
D'accord, merci. Actuellement, c'est mon père qui est malade d'un diabétique depuis 2007.
Mm-hmm.
Et en plus de cela, il a maladie cardio-vasculaire, gros cœur côté gauche, et hypertension. Nous l'avons amené voir un cardiologue, et ce dernier l'avait consulté et lui a prescrit les médicaments tels que Viempress 5 mg, Diamicron 60 mg, Disopolo 5 mg et Aflégique. Mmh. Il y a de cela 8 mois, il est sous traitement et mais il n'est pas complètement guéri. Il faut noter qu'à l'absence de ces médicaments, il fait rechute alors que ces médicaments coûtent très cher ici au Tchad. Alors mes questions sont les suivantes. La première, afin d'assurer sa santé, y a-t-il d'autres médicaments à nous prescrire, à part ceux dont j'ai cité précédemment?
Mmh.
La seconde, va-t-il prendre ses médicaments tout au long de sa vie?
Alors Innocent, je me permets, je réponds pas du tout à la place des médecins, mais juste pour vous dire qu'ici, on ne donne pas d'ordonnance, on ne fait pas de consultation par téléphone, donc c'est quelque chose qui est très difficile, et en tout cas de contredire ce qui a été décidé par des confrères, par des personnes qui exercent sur le terrain et qui ont vu votre père. On ne peut pas se substituer à ces médecins. En tout cas, sur la question que vous posez, est-ce que votre père qui est diabétique et qui a donc cette hypertrophie cardiaque, hein, après ce que vous avez dit, est-ce qu'il va devoir prendre des médicaments jusqu'à la fin de sa vie? Une question, bien sûr, qu'on comprend, qui vous préoccupe et qui est essentielle. Professeur Aimé Bonny, qu'est-ce que vous pouvez dire à Innocent?
Oui, on sait que le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire qui aujourd'hui est même considéré comme une maladie à part entière et donc une maladie chronique. Donc forcément, il va falloir prendre le traitement du diabète à vie. Jusqu'à preuve de contraire, qu'on découvre un traitement qui va guérir le diabète, c'est pas encore le cas. L'hypertrophie ventriculaire, enfin l'hypertrophie cardiaque, si c'est dû à l'hypertension artérielle, on rentre dans la maladie hypertensive. Donc c'est qu'on a vraiment de l'hypertension artérielle qui est aussi une maladie chronique et qui d'ailleurs s'est compliquée donc d'hypertrophie ventriculaire. Et l'hypertrophie ventriculaire est une complication cardiaque de cette hypertension artérielle qui peut aller vers une insuffisance cardiaque à terme si on n'est pas sous traitement et si l'hypertension n'est pas maîtrisée. Donc ces deux conditions morbides sont à traiter de manière permanente et à vie.
Donc la réponse est oui, traitement jusqu'à la fin de sa vie. C'est d'ailleurs traitement pour qu'il vive le plus longtemps possible. C'est ça qu'il faut souligner, Innocent. Merci beaucoup de votre appel. Excellente journée à Djamena. Le temps passe très très vite. On a évoqué deux petites questions pour conclure. On a évoqué au cours de cette émission des études en début d'émission, ce qui nous amène à parler de l'innovation en termes de santé cardiovasculaire. Docteur Jean-Jacques Monsuez, qu'est-ce qui évolue aujourd'hui dans votre spécialité? Je sais qu'on pourra en parler pendant des heures, mais hélas, le temps nous presse.
Je vois Aimé qui sourit et je me dis, je vais répondre au sourire, tout évolue. Alors, tout évolue, que ce soit le traitement de l'hypertension artérielle, le traitement du diabète a considérablement évolué maintenant avec des médicaments qui diminuent les accidents cardiovasculaires. C'est-à-dire que les nouveaux, pour les malades à diabétiques à gros risque, parce qu'il y a des diabétiques à faible risque, mais ceux qui ont un risque très élevé, il y a maintenant des nouveaux antidiabétiques qui sont très puissants et qui diminuent à terme le risque cardiovasculaire. Le tabagisme, bon, on lutte contre. L'hypertension artérielle, c'est un traitement qui est quand même bien établi, l'efficacité est prouvée, etc. Le surpoids, c'est de l'éducation et de la prévention. Les maladies, quand elles sont constituées, la maladie coronaire, grâce au traitement, ça c'est surtout chez nous, du cholestérol, il faut traiter l'hypercholestérolémie, les infarctus diminuent 2% par an depuis 20 ans, c'est énorme.
Alors, pour conclure, je donne la parole au professeur Bonny. Je suis navrée de cette réduction du temps, mais quand même, je voulais que vous parliez de cet important rendez-vous qui se prépare pour la cardiologie en Afrique. C'est le congrès de la Société panafricaine de cardiologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, l'Afrique bouge, hein, comme l'a dit mon ami Jean-Jacques Montuez, qui connaît très bien l'Afrique et qui a dirigé pendant longtemps le groupe cardiologie tropicale, qui est donc ce groupe des francophones africains. Mais la PASCAR regroupe toute l'Afrique, et l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone et l'Afrique anglophone. Et donc, nous avons notre congrès, enfin, le congrès c'est tous les deux ans, et cette année c'est à Johannesburg en Afrique du Sud, où il y aura toutes les sommités africaines et mondiales pour parler des maladies cardiovasculaires en Afrique, mais aussi dans le monde. Et c'est un événement très important, et nous conseillons à tous les jeunes cardiologues africains de venir à cette rencontre, parce qu'il y a des projets avec la Société européenne de cardiologie, avec la Société américaine de cardiologie, des projets d'études multicentriques, pour qu'on puisse mieux cerner la maladie cardiovasculaire en Afrique et mieux la traiter.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci professeur Aimé Bonny, cardiologue, tout comme vous, docteur Jean-Jacques Montuez, membre du conseil d'administration de la Société française de cardiologie. Le docteur Catherine Solano est avec nous, sexologue bien sûr. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Et on va prendre tout de suite un auditeur de Priorité Santé pour répondre à l'une de ces questions. Cet auditeur c'est Moussa, il nous appelle du Mali, de Bamako. Bonjour Moussa.
Bonjour.
On écoute votre question, docteur Solano est à l'écoute.
Donc j'avais déjà participé à l'émission une première fois en demandant s'il y avait contraceptif masculin.
Oui.
On m'avait dit que ça n'existait pas, à moins que ce soit le préservatif, ou alors de procéder à une vasectomie.
Donc, voilà. Votre question c'est, qu'est-ce qu'il y a comme contraceptif masculin? Vous avez entendu parler, bien évidemment, du préservatif, également de la vasectomie. Votre réponse, Catherine?
Ben oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on aimerait tous, les hommes comme les femmes, qu'il existe une contraception masculine, chimique, un médicament, ou peut-être pas forcément chimique d'ailleurs, ou mécanique. Mais malheureusement, sur le plan de la chimie, il y a énormément de recherches. On entend souvent parler, ça y est, on a peut-être trouvé la contraception masculine. Mais pour l'instant, c'est pas spécialement au point. Par contre, évidemment, il y a toujours le préservatif qui est quand même une contraception masculine. Enfin, d'ailleurs, ça peut être une contraception féminine aussi, mais je parle du préservatif masculin. C'est une contraception masculine, et je dirais c'est même une contraception partagée, parce que son avantage énorme à cette contraception, c'est qu'elle se voit. Alors c'est aussi un inconvénient, parce que pendant les préliminaires, disons, faut ouvrir le préservatif, le mettre, c'est pas forcément agréable, mais au moins les deux partenaires le voient. C'est-à-dire que l'homme, il sait que il va pas y avoir de grossesse ni d'infection sexuellement transmissible, alors que si sa partenaire lui dit « je prends la pilule ou j'ai un implant », bah il sait pas, elle pourrait lui mentir. À la limite, il y a des histoires comme ça où il peut pas le contrôler. Et c'est pareil pour la femme, si vous utilisez le préservatif dans le couple, et ben l'homme peut pas dire « oui, j'ai mis un préservatif », alors que c'est pas vrai, elle le voit. Donc c'est une contraception partagée. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez précieux dans un couple.
Alors quel autre type de contraception au masculin, docteur voilà. Solano?
Alors au masculin, il y a une contraception que moi, je trouve très intéressante et trop peu utilisée, c'est la vasectomie. C'est-à-dire que l'avantage et l'inconvénient, disons, c'est que c'est une contraception définitive. Donc c'est plutôt fait pour les couples qui ont déjà des enfants et qui n'en veulent pas d'autres, ou les hommes qui ont un certain âge et qui se disent « moi, à mon âge, je ne veux plus avoir d'enfants ». Donc ça consiste, c'est une stérilisation en fait, ça consiste à couper les petits canaux déférents qui sont dans les testicules, sous anesthésie locale, Et 3 mois après, il continuera à y avoir un sperme normal, mais qui ne contiendra plus de spermatozoïdes. Donc l'homme ne peut plus avoir d'enfant. L'avantage de cette contraception par rapport à une stérilisation féminine, c'est qu'on peut conserver du sperme dans les banques de sperme, c'est-à-dire le congeler à très basse température, ce qui fait que si jamais, pour diverses raisons, l'homme se disait « mais finalement, moi je veux quand même un enfant », eh bien, il y a une possibilité de faire une insémination et d'avoir quand même des enfants après, d'une manière qui n'est pas très compliqué parce qu'on met juste, on fait décongeler le sperme et on le met à l'intérieur du vagin et voilà. Donc c'est une méthode qui est, je sais qu'en France c'est très peu utilisé quand même par rapport à ce que ça pourrait l'être. Il y a des pays comme le Canada où c'est beaucoup utilisé, même chez des hommes très jeunes qui n'ont pas encore d'enfants parce qu'ils font des dépôts dans la banque du sperme et disent « je suis tranquille, ma partenaire n'a pas besoin de pilule, n'a pas besoin de stérile, etc. » Est-ce que ça se développera? Je ne sais pas. Il faut avoir l'infrastructure aussi pour pouvoir conserver le sperme.
Voilà ces réponses du docteur Catherine Solano. Moussa, excellente journée à vous, à Bamako, au Mali. Et on a une question Facebook, docteur Solano. Elle est signée de Prédit Lumière. Il pose donc cette question. Est-ce que le fait de mettre en permanence des slips serrés peut faire diminuer ou rétrécir le pénis?
Alors, j'ai un petit peu le sourire en répondant à cette question. C'est non, le fait de porter des slips ou des caleçons serrés ne va certainement pas faire diminuer la taille ou le volume du pénis. Bah, c'est comme quand vous portez un pantalon serré, ça va pas faire diminuer la taille de vos jambes ou de vos muscles fessiers, voyez. Par contre, c'est une question qui est tout de même intéressante parce que porter des sous-vêtements serrés, ça peut contribuer à quelque chose de négatif, c'est à faire réchauffer cette zone où il y a les testicules. Et ça peut être très gênant et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, en fait, les spermatozoïdes sont fabriqués par les testicules. Pour être fabriqués en bon état de marche, il faut que les testicules soient à une température assez fraîche, nettement plus bas que les 37 degrés du corps. C'est pour ça d'ailleurs que la nature a mis les testicules à l'extérieur du corps, c'est pour qu'ils soient un petit peu au frais. Donc s'ils ont trop chaud, ils peuvent s'abîmer. Et quand on porte des slips serrés, des pantalons très serrés, quand par exemple un homme travaille devant un four, par exemple les boulangers, eh bien ça peut réchauffer les testicules et ça peut atteindre la fertilité. Il y a des personnes qui travaillent devant des fours, je dis boulanger ou dans l'industrie, qui ont des infertilités à cause de cette chaleur. Donc, quand un homme se dit « moi, je veux des enfants », c'est important de ne pas réchauffer ses testicules en portant des choses très serrées, mais aussi en ne mettant pas forcément son téléphone dans sa poche très près des testicules, parce que ça peut chauffer, donc ça ne va pas faire de bien, en ne mettant pas son ordinateur portable sur ses genoux pendant des heures tout chaud pour réchauffer ses testicules, parce que ce n'est pas très bénéfique. D'ailleurs, il y a même des recherches pour faire une contraception masculine en réchauffant les testicules.
Ça s'appelle le slip chauffant, on en a déjà parlé dans l'émission.
Oui, voilà.
C'était un peu contraignant avec 15 heures, j'ai tout retenu, 15 heures faut porter ce fameux slip chauffant, c'est quand même très contraignant.
Oui. Et il y a d'ailleurs aussi des traitements de slip refroidissant pour les hommes qui ont une infertilité, non mais ça existe et c'est pas une blague, pour rafraîchir de manière à augmenter la fertilité. Mais il faut pas congeler les testicules pour autant, évidemment, c'est quelques degrés de moins seulement.
Merci beaucoup docteur Catherine Solano, je rappelle que vous êtes sexologue. On vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Notre émission qui touche à sa fin, merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Juliette Brault, Baptiste Madinier, Didier Bleu, Thibault Baduel. Aujourd'hui, demain, on donne la parole aux jeunes. On attend vos appels, vous, les 16-25 ans, lycéens et étudiants. Vous, mesdemoiselles, précisément, vous avez des questions sur votre corps, votre santé. Questions pas toujours faciles à poser. Contactez-nous sur la page Facebook, on va vous rappeler. Ou appelez-nous 33 84 22 75 75. Demain, une gynécologue sera là pour répondre à toutes ces questions. J'insiste, appelez-nous et à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.